Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief de la matinale ce matin, c'est avec François-Mickey Marty, avec Stéphane Dubreuil, Carole Ferté et Jean-Marc Daniel. On va commencer avec le sujet des cadres et des salaires, le nerf de la guerre des talents. C'est aujourd'hui là-dessus qu'on négocie pour pouvoir, avant de rentrer dans une entreprise. Et clairement, Carole Ferté, aujourd'hui, si on veut augmenter son salaire, faut changer de boîte.
C'est le meilleur moyen, en tout cas, d'augmenter son salaire, c'est de changer d'entreprise. On voit que les entreprises sont prêtes à faire des efforts pour recruter un talent parce que le marché est ultra tendu chez les cadres, faut le savoir, le taux de chômage global est à un niveau record, on est à 7,1%. Chez les cadres, on est sur du plein emploi, on est à 4%. Donc nécessairement, il y a cette volonté aussi des cadres d'augmenter, du fait de son pouvoir, entre guillemets, sur le marché, d'augmenter son salaire, et ça passe par le changement aussi d'entreprise de la part d'un cadre.
Dans l'étude de l'APEC, l'APEC montre que 62% des entreprises qui ont recruté ont finalement accepté d'offrir une rémunération supérieure de celle qu'elles avaient mise au budget, qui était prévue dans la fiche de poste.
Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que ça, c'est un chiffre qui est en augmentation. Les entreprises, du fait de la tension, ont cette nécessité à s'adapter aux demandes des cadres. Donc, elles l'ont fait sur la rémunération. Elles l'ont fait aussi sur d'autres pans. On voit qu'elles s'adaptent aussi aux profils. Elles peuvent parfois recruter des profils plus juniors que ce qu'elles avaient eu en tête. Elles vont avoir profils qui ont un peu moins de compétences.
Elles baissent leurs prétentions, elles augmentent le salaire. C'est double chance.
Exactement.
C'est exactement ce que nous disait ce matin Laetitia Gnaudeau, la directrice adjointe de l'APEC, qui sort une étude sur la question. On la réécoute.
Des ajustements sur le profil du candidat finalement retenu par rapport au profil initialement recherché. Mmh. Et les entreprises ont été plus aptes à accepter des profils avec des compétences techniques moindres et avec des expériences, des niveaux d'expérience, des années d'expérience moindres. Il y a encore un sujet clairement de préjugés sur le fait que les seniors seraient plus chers à l'embauche, seraient moins adaptés aux évolutions technologiques. Vraiment des préjugés sur lesquels il faut qu'on continue à lutter.
Stéphane Dubreuil, vous êtes directeur conseil de Nigi. Est-ce que vous aussi, vous en recrutez beaucoup, est-ce que vous aussi, vous avez dû augmenter les rémunérations et baisser en prétention?
Alors, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que, et c'est légitime, il y a une inflation qui est très importante. Donc, on nous demande de le répercuter au moins partiellement, on va dire. Sauf que nous, nos clients, ils n'acceptent pas qu'on intègre l'inflation. Ouais. Donc, à un moment, c'est ce jeu assez complexe et cet équilibre qu'il faut trouver entre garder nos talents et accepter des augmentations et à la fois baisser nos marges, puisque ça revient à ça, en fait.
Alors, comment vous avez fait, alors?
Vous laissez partir des gens dont vous n'arrivez pas à vous aligner ou...
Malheureusement, ça peut arriver, mais on fait tout pour les garder. Après, il n'y a pas que la rémunération. Je pense que il y a tout ce qui est formation, employabilité, etc. Donc, on investit beaucoup sur la carrière de nos collaborateurs. Ouais. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la rémunération, elle devient centrale. Mais pas que chez nous, en fait. J'ai envie de dire, c'est tout le marché actuellement.
François-Mickey Marty, il y a du monde aussi chez VI Voice. Est-ce que vous avez des demandes de temps partiel, d'augmentation du télétravail, de salaire? Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, alors... C'est vrai qu'en général, c'est une combinaison de ces facteurs-là, mais tout ce qu'on voit depuis un an et demi, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que la dimension financière devient de plus en plus prépondérante, y compris d'ailleurs dans l'enquête que vous citez. L'idée de proposer du télétravail, des choses comme ça, était très secondaire. C'est très intéressant, parce qu'il y a deux ans, on n'aurait pas tout à fait dit la même chose, et on considérait qu'il y avait une nouvelle aspiration au travail,
plus
de questions de vie privée, l'harmonisation entre la vie privée et la vie personnelle et la vie professionnelle, des questions de sens au travail. Alors, tout ça, bien entendu, est très important. Mais enfin, quand même, quand on voit que la question des rémunérations est centrale de la part des ajustements des entreprises, ça correspond aussi à ce que racontent les dirigeants d'entreprises dans d'autres baromètres, en particulier le baromètre que nous réalisons pour HEC, le FIGARO et BFM Business.
Ils sont en forme.
C'est ça, au fond. Et du coup, on revient à des logiques de marché très traditionnelles, d'une certaine manière. La bonne nouvelle, c'est que le moral des cadres continue d'augmenter mois après mois, parce qu'au fond, il y a des perspectives d'avenir. Donc, dans une économie qui se pose des questions, là, tout d'un coup, voilà une bonne nouvelle.
Jean-Marc Daniel, vous êtes content, c'est encore un domaine où le marché joue à plein, oui, l'offre et la demande.
Simplement, il y a de la concurrence.
La bonne nouvelle, c'est que le marché joue à plein.
Oui, mais simplement, ça, vous avez entendu les témoignages de cette entreprise à l'instant. Simplement, à un moment donné, en face, il y a des clients qui ne veulent pas d'augmentation du prix, des prix. Et donc, comment le marché résout cet effet ciseau ?
Mais le marché résout cet effet ciseau en mettant en face de la rémunération la productivité. Si vous augmentez les salaires, c'est que vous augmentez aussi l'efficacité, la productivité.
Et donc, les salariés veulent télétravailler, avoir du temps partiel, donc c'est pas forcément positif pour la productivité.
Oui, le problème, c'est quel est le degré de concurrence qu'il y a parmi les salariés. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de concurrence. Ça prouve aussi quand même, là aussi, qu'on a l'impression en général dans les discours ambiants que l'entreprise domine, que l'entreprise exploite, que l'entreprise pressure.
Donc, elle subit ses talents, en fait.
Elle subit la concurrence sur les talents et une concurrence qui est double. C'est-à-dire une concurrence qui est le fait qu'elle devient internationale. Alors, les gens qui ont fait les grandes écoles d'ingénieurs, maintenant, ils regardent le marché international. Et sur le marché international, on est mal positionné à cause de la fiscalité. C'est-à-dire que pour une rémunération qui est affichée comme étant à peu près la même, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, vous payez moins d'impôts. Donc il y a un problème de matraquage fiscal des talents. Mm-hmm. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, une des caractéristiques de la France, c'est d'avoir maintenu dans la formation supérieure des formations d'ingénieurs et de techniciens. C'est ce que disent les Américains aussi. C'est on fait son marché en Europe en termes d'ingénieurs parce que nous, on forme avant tout des juristes. Et donc il y a un moment où la concurrence est faussée par le fait qu'il y a des marchés surabondants, les juristes, et il y a des marchés sous-dotés, les techniciens et les ingénieurs. Donc, il faut renforcer la formation d'ingénieurs en France, prolonger notre action.
Stéphane Dubreuil.
Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder profil par profil. On a des profils aujourd'hui où il n'y a pas assez de formation. Je vous donne un exemple. Si vous cherchez des gens spécialisés sur la cybersécurité, la data science ou l'intelligence artificielle, vous en trouvez quasiment pas. Donc effectivement, pour les attirer, vous êtes obligé en fait de sortir des grilles classiques de rémunération. Sinon, vous n'arrivez pas à les avoir.
J'ai envie de parler d'un peu de psychologie de talent quand même avec vous, Carole Ferté. Quand on est justement ingénieur et qu'on est sur ces milieux très demandés, on a la tête qui explose. Enfin, on se prend pour Dieu au bout d'un moment. Enfin, si on est demandé et chassé, enfin, on connaît tous des gens qui sont chassés régulièrement tous les deux mois, qui pourraient changer de poste en permanence.
C'est vrai qu'on a des talents qui sont extrêmement chassés. Donc certains gardent quand même la tête froide parce que c'est un peu ce que j'ai pu dire par avant. C'est-à-dire que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois un certain confort à être dans une entreprise, à être reconnu dans cette entreprise, et les entreprises aussi redoublent d'efforts pour recruter, mais aussi pour fidéliser leurs collaborateurs, en donnant certains avantages, notamment sur le temps de travail, etc., qui va aussi, d'une certaine manière, favoriser la productivité. Si on travaille un petit peu moins, 4 jours par exemple par semaine, on trouve un équilibre par ailleurs, on peut être membre d'une association, faire plus de sport, écrire un livre, etc., et on va gagner aussi en productivité dans cette entreprise. Donc finalement, on peut aussi être quelqu'un d'efficace dans son entreprise.
François-Mickey Marty, est-ce qu'on est dans une bulle là ? Est-ce qu'on parle effectivement d'une catégorie de Français, de salariés, les cadres extrêmement chouchoutés et choyés ? Quelle est la perception globale des Français justement sur le rapport de force au sein de l'entreprise en termes de rémunération ?
Oui, on a beaucoup. Ce n'est pas qu'une bulle en effet qui concernerait uniquement les cadres, bien entendu. On a de nombreux secteurs d'activité et de nombreuses fonctions, je pense en particulier au bâtiment, je pense à l'industrie du béton, et toute une série de secteurs d'activité qui sont des métiers en tension, véritablement. Mmh. Avec des gens qui... Et probablement, les réflexions sur ces sujets-là, qui sont très fortes au sein des entreprises depuis un an et demi maintenant, se déploient de manière extrêmement différenciée, c'est-à-dire selon les professions, selon les secteurs d'activité, selon les missions que l'on cherche à trouver. Il y a aussi, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais une diversification de la part des entreprises de leur mode de recrutement, c'est-à-dire un sourcing qui se produit, ouais, par des voies qui sont très différenciées, multicanales.
Et donc, réseaux sociaux.
Réseaux sociaux.
Les chasseurs de tête aussi qui vont le voir en poupe aussi en ce moment.
La voie doit jouer un rôle important dans tout ça. Voilà. Donc, on est véritablement aussi sur, j'allais dire, des entreprises qui, dans leur secteur d'activité, cherchent à se réinventer et à trouver à la fois en interne, pour l'interne, des leviers d'attractivité qui sont nouveaux, mais aussi dans la manière d'être vis-à-vis de l'externe, à des capacités de mobilisation qui sont réinventées.
On va parler des télécoms maintenant. Le revenu des opérateurs sur le marché de détail atteint 36,7 milliards d'euros en 2022, en croissance d'environ 2% pour la deuxième année consécutive. Un bilan très positif pour Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, qui était avec nous il y a quelques instants.
C'est 1,2% pour le fixe, 0,7% pour les mobiles. C'est relativement flat. On est bien inférieur au prix antérieur. On sent que sur les mobiles, en fait, les prix sont stabilisés depuis 2014 ou 2015 à un prix qui est très inférieur à ce qu'il était avant. C'est des prix qui sont bas par rapport à la moyenne européenne et on n'a pas constaté de guerre des prix en 2022. Le marché, le chiffre d'affaires augmente, ils continuent à investir, les consommateurs ont des prix bas. Je ne sais pas si tout va bien, mais globalement, si vous regardez les résultats de l'année 2022 par rapport aux objectifs du régulateur, la situation est relativement satisfaisante.
Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est le carnet de santé d'un secteur économique qui se porte bien, des investissements qui restent au plus haut, mais au fond des prix, 2% de hausse, c'est moins que l'inflation. Et est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence sur les télécoms?
Non, il n'y a jamais trop de concurrence, il n'y en a jamais assez. Mais, et justement, ce qui est intéressant, c'est, elle l'a bien dit, c'est-à-dire que les prix sont plutôt tendance à stagner, voire à baisser. Donc, tous les gens qui nous annoncent, nous menacent d'inflation, ils voient bien qu'il y a des prix qui baissent. Il n'y a pas d'inflation parce que les prix dans ces secteurs-là baissent. Mais je ferai référence à ce que disait Arnaud Montebourg pendant la campagne électorale, oui.
Ah oui.
Donc je ne sais pas si les gens se souviennent qui c'était.
Bon, si. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que vous le citiez.
Je trouve intéressant. Pendant la campagne électorale qui opposait Nicolas Sarkozy à François Hollande, il avait fait une grande déclaration en disant « Monsieur Sarkozy parle de pouvoir d'achat, mais Xavier Niel a fait plus pour le pouvoir d'achat que Monsieur Sarkozy. » Parce qu'il a poussé les opérateurs téléphoniques à baisser leur prix. Il est ministre et il dit « Monsieur Xavier Niel est un voyou. Il n'arrête pas de faire pression sur les bénéfices des entreprises des télécoms, moyennant quoi ils ne peuvent plus recruter. Alors, il faut choisir son camp.
Sans chevaux d'avis.
Oui. Il faut choisir son camp. Moi, je suis dans la première version. Monsieur Niel, Xavier Niel a fait plus pour le consommateur et pour le pouvoir d'achat que Nicolas Sarkozy.
Et Stéphane Dubreuil, quand même, cette question des prix, c'est, on disait 2%, c'est pas beaucoup, c'est pas assez pour couvrir l'inflation.
Non, c'est pas assez. Maintenant, ça commence à remonter. Il faut savoir qu'il y a des forfaits qui ont commencé à augmenter.
Oui, mais en même temps, vous avez vu, la guerre des prix a repris là depuis quelques semaines.
Oui, et alors, surtout si vous avez bien fait attention, en fait, l'année dernière, les opérateurs ont sorti du marché les MVNO, qui sont des opérateurs virtuels qui offraient des forfaits à 5 euros, qui étaient les plus bas du marché. Et afin de pouvoir remonter les prix, ils ont d'abord sorti ces opérateurs, donc SFR et Bouygues ont consolidé ce marché-là, et ça leur a permis ensuite de remonter les prix. Sauf que la guerre, elle recommence. On est un marché quand même qui est très concurrentiel. On a un acteur qui s'appelle Free, qui depuis l'origine anime ce marché-là. Et donc effectivement, quand j'entends ça va remonter de manière très importante, je suis dubitatif. 2%, c'est quand même pas énorme quand on voit le taux de l'inflation, exactement. Ouais. Et surtout les investissements.
Ah oui, du coup, c'est quand même.
C'est 15 milliards quand même les investissements par an. Des télécoms.
Justement, François-Mickey Marty, quelle est la perception des Français par rapport à la qualité de leur réseau, que ce soit la 5G, que ce soit la fibre? On sait que l'ARCEP, elle nous en a parlé, regarde ça avec attention. Il y a certaines zones où il y a des mauvais élèves, elle nous a cité Orange, sur notamment les Sables-d'Olonne ou d'autres villes comme ça. C'est quoi la perception des Français sur ça?
Alors, c'est pas mal, on pourrait dire, si on était un peu scolaire, pourrait faire un peu mieux. Voilà, c'est-à-dire la satisfaction au niveau global, elle tourne autour de 6,5-7, on a des notes sur 10, tout ça est très, malgré tout, assez scolaire. Donc, c'est 6,57, on peut se dire bah, après tout, ça passe la moyenne, mais en général, les notes de satisfaction sont un peu plus élevées. Bon, voilà, il y a des questions quand il y a des problèmes, etc. Voilà. Le deuxième point que vous évoquez est très intéressant aussi sur la 5G. Vous dites la 5G. Rappelons-nous, quand la 5G a été démocratisée, ouverte au grand public, il y avait des débats extrêmement intenses. Et à l'époque, on n'avait qu'un quart des Français qui disaient que le déploiement de la 5G était une bonne chose. Un quart. Les autres considérant soit c'est une mauvaise chose, soit qu'on n'a pas besoin de tout ça, etc. etc.
Donc on a aujourd'hui irradié.
Souvenons-nous des débats. Je me souviens, d'ailleurs, ici sur ce plateau, il y a des débats sur le rôle de la 5G, etc. Plus personne ne parle de tous ces méfaits de la 5G. C'est-à-dire que chemin faisant, là, en revanche, on a un point de satisfaction majeur. Alors, l'expérience utilisateur, on ne finit même plus par savoir qu'on utilise la 5G. Oui. Donc, il y a eu une acceptabilité qui a considérablement progressé. Et enfin, et je termine sur ce point, l'image des opérateurs de téléphonie mobile, elle-même est assez contrastée, c'est-à-dire qu'on n'est pas au top de la perception des opérateurs. En revanche, on a des éléments de confiance qui sont quand même assez solides.
Avant de dire un mot de la dette américaine, Stéphane Dubreuil, la 5G, ok, on n'est plus contre, mais ça ne change pas la vie non plus.
Pour l'instant, pour le grand public, c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas flagrant. C'est plutôt pour les entreprises, tout ce qui est industrie 4.0, voitures autonomes, etc., où il y a des vraies applications.
Avec les délais de réponse qui deviennent quasi nuls.
La télémédecine, par exemple, grâce à ça. C'est vrai que pour le grand public, c'est pas flagrant aujourd'hui.
La dette américaine, notre troisième sujet du jour. L'agence de notation Fitch a annoncé avoir placé la note des États-Unis sous surveillance. Antoine Larigauderie, vous êtes avec nous depuis Euronext Paris. La question qu'on se pose depuis ce matin, c'est savoir si c'est grave ou pas.
C'est un petit théâtre récurrent, hein, on l'a beaucoup dit ce matin, mais c'est vrai que l'avertissement est quand même sans faille hein, de l'agence Fitch, hein, de placer le triple A américain sous surveillance avec implication négative, donc en vue d'une possible déclaration. On a eu la patronne du FMI aussi qui a dit hier on se serait bien passé de tout ça, c'est pas comme si il n'y avait pas déjà énormément d'incertitudes sur les marchés. C'est vrai que c'est déjà arrivé régulièrement, hein, ce psychodrame de la dette américaine. On a même eu des périodes de défauts techniques pendant quelques jours, il y a quelques années, mais globalement tout le monde s'attend à ce qu'un compromis soit trouvé. Non, le véritable problème, et Fitch le souligne, Janet Yellen en a déjà parlé, c'est que ces négociations ont pris tellement de retard qu'il y a certaines factures de l'État américain qui seront sans doute pas honorées. Et ça, tout le monde s'y prépare. Et c'est vrai que le marché, qui a eu tendance ces trois dernières semaines à pas y faire trop attention en disant de toute manière ça se réglera d'un trait de plume à la dernière minute, il voit l'échéance arriver le 1er juin et puis il commence à stresser. Pour preuve, le VIX, hein, l'indice de la peur, le baromètre de la peur, hein, sur les marchés américains, qui repasse le cap des 20 points. C'est un plus haut depuis le début du mois.
Merci Antoine. Docteur Daniel, est-ce que c'est grave?
Non, je ne pense pas que ce soit grave. C'est vraiment comédiante et tragédiante, pour prendre l'expression.
On dit ça jusqu'au jour où, avec votre fameux course des poulets, où d'un moment, parce qu'on rappelle les règles, le premier qui s'arrête a perdu.
Voilà.
Les démocrates et républicains sont engagés dans une course des poulets. Ouais. Sauf qu'au bout, il y a quand même la falaise.
Voilà, alors il y a la falaise, et donc si on tombe dans la falaise, on meurt. Donc, le premier qui s'arrête a perdu. Et donc, ils sont totalement dans ce jeu-là. Et donc, Bertrand Russell, je citais la chose, non pas pour la dette, mais pour l'arme nucléaire. Il disait, effectivement, le véritable problème, c'est qu'en plus, celui qui appuie sur le bouton ne meurt pas. C'est-à-dire que dans le jeu du poulet, celui qui est engagé dans le jeu finit par mourir. Là, celui qui est engagé dans le jeu, en plus, il tue d'autres, mais il ne meurt pas. On est un peu dans la même situation là. C'est-à-dire que si les républicains provoquent le drame, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils en auront des conséquences personnelles. Ce que disait Bertrand Russell, c'est que pour éviter ça, il faut élire à la tête de l'État les gens qui vont appuyer sur le bouton, des gens qui soient responsables et compétents. Ouais. Je crois que c'est un peu le problème des États-Unis.
Ils meurent en même temps. Stéphane Dubreuil.
Là, on est quand même dans un contexte qui est un peu particulier par rapport aux autres fois. C'est que là, on a deux positions diamétralement opposées. C'est-à-dire Biden qui est dans la course à la Maison-Blanche, qui joue le social, ne veut surtout pas toucher sur cet aspect-là, alors que les républicains veulent absolument. Et Biden répond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taxer les riches. Et inacceptable pour les républicains. Donc, pour la première fois, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Il faut absolument trouver...
Il n'y a pas de négo budgétaire possible.
A priori, là, aujourd'hui, c'est pour ça...
Donc, vous dites que c'est possible. C'est possible qu'on ne s'entende pas.
Là, aujourd'hui, en tout cas, ça va aller plus loin que les autres fois, je pense. Et effectivement, c'est quasiment certain qu'il y aura des fonctionnaires qui ne seront pas payés, etc. Mais là, aujourd'hui, politiquement... C'est diamétralement opposé. Si Biden n'accepte pas d'aller couper des dépenses ailleurs, et ce qui est pas gagné vraiment, à mon avis, là, on n'est pas loin d'un incident qui peut s'éterniser un petit peu.